Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro et on se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir, bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. On continue comme on le fait chaque semaine avec toujours un plaisir égal à survoler la paracha de notre semaine et donc ce passage qu'on lit dans nos communautés. Et donc cette semaine, on arrive à une paracha qui s'appelle Ré'é. Alors bien sûr, il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait réfléchir ce soir, mais vous avez choisi l'un des thèmes de cette paracha, évidemment, mais vous avez choisi celui de faire fauter. Alors, fauter, c'est déjà grave, bien sûr, mais la Torah nous dit que faire fauter les autres, c'est encore pire. Pourquoi et quel enseignement vous en tirez, Ravelli Lemel?
Exact, c'est exact. On est dans cette paracha, donc chapitre 13, verset 7. On est dans un texte qui nous dit la chose suivante, qui est « Sitra chicha banimecha ovincha obitra oveshet rekecha oreacha shabonavshecha » etc. Il dit quand Si ton frère, ton fils, ta fille, enfin voilà, on nous parle de différentes personnes qui sont là, ou alors ton ami, t'incites en te disant « Allons, y adorons d'autres dieux qu'on n'a pas connus », suite de ces versets, évidemment, la Torah nous dit qu'on n'a pas à l'écouter, mais surtout, c'est le verset est extrêmement catégorique. « L'otovelo, tu ne seras pas aimable avec lui », tu l'otachosenchalav, tu n'auras pas pitié de lui, l'otachmol, enfin voilà, c'est-à-dire c'est en deux mots, il doit être condamné, point, c'est-à-dire aucune pitié à avoir. Alors là, évidemment, il y a quelque chose qui est très très bouleversant parce que la Torah sur cette personne est extrêmement dure et nous dit pas de pitié à avoir. Alors que de manière générale, on sait très bien que même quand quelqu'un a transgressé quelque chose, on cherche par tous les moyens à trouver une raison pour innocenter, pour pardonner, pour trouver des circonstances atténuantes. Enfin voilà, c'est ce que la Torah nous demande. Et là, alors là, on est exactement dans le contraire. Et évidemment, faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue ici. Et au passage, c'est intéressant parce que à un moment, le verset nous dit « Celui qui te dit « Allons et tournons-nous vers d'autres divinités que tu n'as pas connues ni toi ni tes pères ». Et Rashi nous dit, il dit cette chose-là est insupportable, c'est honteux. Pourquoi? Parce qu'il dit même chez les nations du monde, on ne met pas de côté ce qu'on nous a transmis. Et là, il te dit, bah, écoute, ce qu'on t'a transmis, au fond, ça vaut rien, tu le mets de côté. C'est intéressant parce que ici, Rashi n'est pas là, le commentateur, au nom du Sifri, n'est pas du tout en train de dire, ça ne se fait pas d'aller vers d'autres divinités. Non, Rashi dit, mais attends, mais c'est bouleversant parce que il est en train de dire, au fond, invalide ton passé. Ce qu'on t'a transmis, ça ne vaut rien. Ils n'ont rien compris. Donc, ben allons ailleurs, quoi. Puisque de toute façon, réinventons les choses, puisque ce qu'on t'a transmis, ça ne vaut rien. Et quelque part, si on réfléchit un instant, ce n'est pas quelque chose qui est si loin de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. En effet, dans l'univers juif, eh bien, on va se retrouver avec des personnes qui vont nous dire, bon, au fond, ce qu'on nous a transmis, on peut le mettre de côté, on réinvente tout, quoi. Vous savez, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a, et je fais juste une petite parenthèse, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours interpellé. Vous avez souvent des personnes qui vous disent, mon grand-père, ma grand-mère, alors ça peut être de Tunisie, de Pologne, d'Algérie, du Maroc, de Hongrie, d'Allemagne, de France, de là où vous voulez, mais il y a beaucoup de personnes, l'immense majorité des gens parlent avec émotion de leurs grands-parents, alors a fortiori de leurs arrière-grands-parents, voire même, ah mais moi, vous savez, j'avais un arrière-grand-père qui était grand rabbin, une arrière-grand-mère qui était une grande sadéquette, une femme très bien, et j'ai envie parfois de leur dire, oui, mais vous êtes en train de dire qu'au fond, ils n'avaient rien compris, parce que vous invalidez complètement ce qu'ils font, vous dites non mais bon, tout ça c'était à l'époque, Non, Shabbat, il faut réinventer les choses, tout ça. Mais attends, donc en deux mots, on est en train de dire, mais au fond, nos ancêtres n'avaient strictement rien compris, ils étaient complètement, pardonnez-moi l'expression, à côté de la plaque. Nous, enfin, on sait quoi. Nous, on sait, on va vous dire, voilà, c'est comment il faut faire. Une nouvelle Torah, une nouvelle manière d'appréhender la relation à la loi. Parce que nous, on sait, nous, on a compris. Alors, ce qui est bouleversant en plus, c'est que la plupart du temps, les personnes qui vous expliquent qu'au fond, aujourd'hui, il faut faire totalement différemment et que les époques d'avant n'avaient strictement rien compris, elles-mêmes, j'aimerais leur demander quelles sont véritablement leurs connaissances dans la Torah. Parfois une connaissance, mais de surface, suffisamment pour ébahir ceux qui ne connaissent pas. Mais peut-être de ceux qui savent, c'est un peu plus compliqué. Et c'est très intéressant parce que si la Torah ici nous dit « attention, lotachos velotachmol », c'est qu'il y a ici l'enjeu de la transmission, l'enjeu de ce qui est au cœur même de l'identité juive, c'est-à-dire si vous invalidez votre passé, vous ne pouvez pas avoir de futur. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, tous les juifs disent « non, non, mais le passé, le souvenir ». D'ailleurs, j'aime beaucoup toutes ces personnes qui sont là en train de dire « attention, le souvenir de la Shoah, le souvenir de machin, le souvenir, le souvenir, le souvenir, on adore ». Mais le souvenir de la valeur des mitzvot, le souvenir de ce que nos parents et nos grands-parents ont fait de manière la plus exacte possible, même s'ils ne comprenaient pas toujours tout, mais cette fidélité, eh bien celle-là, non, celle-là, on peut la mettre de côté, au fond, peut-être parce qu'elle est un peu embêtante, parce qu'elle nous oblige à faire des efforts, parce qu'elle nous amène à ne pas être perçus parmi les autres, par les autres comme étant des gens comme il faut. Et c'est ça qui va être un élément qui va conditionner énormément de choses. Et c'est là où, en effet, le Passouk nous dit « attention, qui est si craquant, on se retrouve face à une situation pareille, eh bien, il faut savoir l'importance. » Et à nouveau, quand la Torah nous dit des mots tellement forts, même si concrètement, pour pouvoir condamner, on le sait, c'est très complexe, mais en utilisant des mots si forts, la Torah est en train de nous dire « attention, il y a ici quelque chose » de fondamental qui est en train de se jouer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si toutes les conditions sont remplies, il ne faut pas avoir pitié parce que c'est l'édifice même du clan Israël qui est mis en danger. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte de la Torah qui le dit. C'est-à-dire, mettons de côté ceux qui vont dire à nouveau ce sont des inventions de rabbins. D'abord, les rabbins, les rabbanim, les maîtres, sont ceux qui nous ont transmis la Torah orale et qui est l'explication de texte de la Torah écrite sans laquelle la Torah écrite est incompréhensible. Mais là, je suis désolé, mais c'est un verset de la Torah. Et c'est un verset, même pour ceux qui invalident sans arrêt la parole des rabbanim, de tous ces maîtres du Talmud, de tous ces génies. D'accord ? Eh bien, ça c'est un verset. Et au passage, c'est intéressant de voir que parfois on dit aux personnes, eh bien, mettez de côté telle ou telle chose, c'est pas si important, c'est pas si grave, l'essentiel c'est ailleurs. Mais en même temps, on peut faire le messie, celui qui pousse à mettre de côté. C'est celui aussi qui parfois va prendre comme référence des maîtres comme Maïmonide, comme le Gaon de Vilna, comme le Baal Shem Tov. Voilà, mais en oubliant juste que ces maîtres-là avaient donné une importance fondamentale à toutes ces règles de la Torah. Et là, ici, une forme d'incohérence. Comment peut-on citer des maîtres et invalider par ailleurs ce qu'ils nous enseignent par rapport à l'importance fondamentale d'être dans cette massora, d'être dans cette transmission et d'être toujours à l'écoute de ce que les Chachmei Israël, les maîtres du peuple juif, ont transmis de génération en génération. Alors évidemment, le Messie, vous savez, celui qui est là et qui essaye d'amener l'autre vers ailleurs, évidemment, lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il cherche à invalider. C'est sûr et certain que, eh bien, après, toutes les techniques sont bonnes. Parmi ces techniques, c'est d'avoir envie de dire qu'au fond, eh bien, tous ceux qui transmettent la Torah sont attachés à leurs prérogatives et ne veulent pas les lâcher, donc invoquent la loi pour garder le pouvoir. Why not? Pourquoi pas, au fond? On peut toujours tout inventer pour pouvoir justifier ce désir à un moment de prendre le clan d'Israël et de l'amener vers des chemins qui, au fond, sont le début de la fin de son histoire, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on a ici un texte qui est très clair, et sur lequel la Torah nous demande de bien réfléchir. Vous savez, pour la Torah, au fond, l'ignorant, ou celui qui n'a pas envie de s'inscrire dans ce que la loi lui dit, parce que ça le fatigue, c'est trop compliqué, c'est difficile. Vous savez, ces personnes qui, au fond, disent, mais bon, vous comprenez, mettre les téfilines tous les jours, ça me prend du temps. J'ai eu parmi mes maîtres des personnes qui, à Auschwitz, ont réussi à mettre les téfilines tous les jours, donc il faudra qu'ils leur expliquent aussi comment se fait-il qu'eux n'aient pas le temps. Mais ça, c'est à chacun entre lui et lui-même. Mais quelque part, ce juif-là, à la limite, il accepte l'idée même que cette Torah, elle est vraie, mais que bon, voilà, pour des raisons qui lui appartiennent, il ne se sent pas, il n'a pas envie, il ne peut pas, que sais-je, je ne peux pas le juger, je ne suis pas à sa place. Mais le Messie, c'est celui qui dit non, non, allez, on met ça de côté, ce sont des vieilleries. On n'en prend que quelques éléments plaisants, qui nous plaisent bien, mais sur le reste, mettons de côté. Et c'est intéressant, et je réinsiste et je conclue là-dessus, de voir que Rashi, justement, nous dit attention, celui qui dit allons vers d'autres divinités, Rashi ne met pas en exergue le fait qu'il dit faut aller ailleurs. Rashi nous dit c'est celui qui dit, mais au fond, invalide ton passé. Et Rashi nous dit, mais Genaï, mais quelle honte de dire au fond que eh bien, tout ce qui était transmis jusqu'à présent n'avait aucune valeur, et que donc maintenant on peut tout revisiter, tout repenser, et puis voilà, et que nous enfants, on a tout compris. Voilà un petit peu quelques idées. Alors, je sais que, évidemment, ces mots-là peuvent faire polémique, mais je les assume complètement parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un enjeu fondamental, c'est d'avoir une certaine démarche. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup, mais j'essaye de l'avoir, d'honnêteté intellectuelle, en tout cas d'essayer de se poser les vraies questions et de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui sous-tend parfois nos désirs de prendre de la distance par rapport à la Torah? Pourquoi est-ce que parfois on a tellement besoin de mettre de côté ce passé? Quel est le but? Quelle est la finalité? Et la Torah nous dit, attention, il y a ici quelque chose sur lequel il y a lieu de bien réfléchir et d'être extrêmement vigilant. Et évidemment, ceci demande à être développé, étudié, réfléchi, et peut faire évidemment l'objet d'un vrai débat et d'un vrai échange.
Rav Eli Lemel, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom. Bonsoir à vous, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
À Jérusalem, on le retrouve, le Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, ou Mevorach. On continue à survoler notre paracha de la semaine. Et il se trouve que la paracha Tréhé pose la question du libre arbitre. Vaste question, parce que Rav Mordechai Bitton, où se place le libre arbitre? En fait, c'est une question de curseur, j'imagine, mais où, comment, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est sur ce point que vous voulez intervenir ce soir.
Alors effectivement, quand on lit le premier verset de la paracha, qu'est-ce qu'on voit? Re'anochi noten lifnechem ayom bravrak. Là, je vois Hachem s'adresse donc par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, de Moïse au Bnei Israël, et dit ani noten lifnechem, je donne devant vous donc la bracha et la klala. La bracha, si vous écoutez les mitzvot de Hachem votre Dieu, Asher Adochi Betzavet Ramem, que je vous ordonne aujourd'hui. Donc, les commentateurs posent la question suivante. Ils disent, ce verset, c'est un verset qui interpelle, parce qu'il dit, dans un premier temps, « Re et vois, je mets devant toi, donc la bracha et la kala, et après, si vous écoutez, donc il va, dans un premier temps, s'adresser à l'œil, re et vois, et dans un deuxième temps, à l'écoute. » Alors, ce verset-là, c'est le verset, Parashat Re, donc qui parle effectivement de la Bechira, du libre-arbitre. Hachem place devant toi la bracha et la kala, la bénédiction et la malédiction, et tu as le libre-arbitre total, absolu, de choisir la voie que tu voudras. Et donc, la question qui se pose ici, c'est où se trouve exactement le libre-arbitre, Hachem? Où est-ce que l'homme est exactement libre de faire les choses? Il y a finalement deux forces fondamentales chez l'homme. Il y a la force intellectuelle et la force émotionnelle. Ce sont les deux forces, les deux pôles finalement qui régissent le comportement de l'individu. D'un côté l'intellect avec la capacité à analyser, à réfléchir, à se projeter, et d'un côté les émotions avec les sentiments, avec les impulsions aussi. Et donc ce sont les deux endroits. Et donc ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est finalement où est-ce que entre ces deux points-là se trouve réellement la Bechira, le libre arbitre. Comment s'exerce le libre arbitre? Par exemple, si on retourne à l'origine de notre histoire, on verra que lorsque Dieu va s'adresser à Adam Arishom, le premier homme, et qu'il va lui ordonner de ne pas s'approcher, de ne pas manger, plutôt de ne pas manger, pardon, de l'arbre du Tov et du Ra, ne pas manger du fruit de cet arbre. En fait, qu'est-ce qu'il lui ordonne ? Il lui ordonne de s'éloigner du lieu de la Béchira, du lieu du libre-arbitre. Il va lui dire, ne t'approche surtout pas de cet endroit qui est un endroit où tu peux fauter, et donc ne t'approche surtout pas et ne mange surtout pas de cet endroit-là qui est un endroit à partir duquel s'organise la liberté, finalement. Et donc cette liberté, si vous voulez, il faut essayer de comprendre où est-ce qu'elle se trouve. Parce que finalement, lorsqu'un homme s'approche, grandit dans la spiritualité, d'une certaine manière, il s'enlève des libertés. Si vous dites aujourd'hui à quelqu'un qui fait Kippour depuis des années, est-ce que tu es d'accord de manger un sandwich avec un jambon beurre à Kippour ? On peut dire, comme on disait il y a 30 ans, quand il y avait encore des disquettes, que la disquette ne rentrait pas. Les gens n'étaient pas capables les gens ne sont pas capables. Les gens qui font Kippour ne sont pas capables de comprendre ça. Donc plus quelqu'un, en quelque sorte, est proche du monde spirituel, moins, entre guillemets, il a de liberté. À l'inverse, lorsque quelqu'un, finalement, est exposé à ses passions, à ses désirs ou autres, etc., c'est là que s'exerce, finalement, ce qui pourrait ressembler à de la liberté. Alors, pour répondre à cette question où se trouve le libre-arbitre, il faut se référer au Rambam, à Maïmonide, qui, dans le traité des 8 chapitres, qui est l'introduction de son commentaire sur les Pirkei Avot, sur les maximes de nos pères, dit la chose suivante. Il dit que parmi les 5 forces qu'a l'homme, il y a un koach, une force qui s'appelle le koach Medamé. Alors, Medamé, c'est une force en fait, qui permet à l'homme de projeter, de rapporter des éléments les uns aux autres, qui permet de faire des comparaisons, qui permet également d'imaginer, de faire fonctionner sa capacité à imaginer. Et il dit finalement, la Bechira, le libre arbitre de l'homme, il se trouve finalement dans son cœur et dans son cerveau, et cette force qui s'appelle qui est dans son cœur et dans son cerveau s'appelle le Koach Medamé, c'est-à-dire la force que l'homme a d'imaginer des choses. L'homme peut imaginer. Maintenant, il peut imaginer quand il se projette dans le monde des passions, dans le monde des envies. Là se propose à lui une palette absolument infinie de choses qu'il peut effectivement, qui en apparence vont lui procurer un certain plaisir. La même chose dans le monde spirituel, la force qui va lui permettre de se projeter, c'est la force de projection dans le monde spirituel. Et les Baalei Moussar, ils vont très très loin. Les Baalei Moussar, c'est les maîtres de l'éthique juive, les maîtres du travail sur soi, nous disent qu'on a le droit d'imaginer, de se créer en quelque sorte des tsiurim, des représentations de ce que pourrait être le monde futur. Qu'on se retrouve, quand nos sages nous enseignent par exemple qu'on va se retrouver avec des tzadikim, à étudier avec eux, etc. Essayer d'imaginer ce que ça peut être. On a le droit de faire fonctionner notre imagination dans ce sens. Et donc en vérité, le libre arbitre de l'homme, il se trouve là. L'homme est libre d'imaginer. Et il peut imaginer des choses qui ont trait à ses passions et à ses désirs, ou alors il peut imaginer des choses qui ont trait à la spiritualité, qui ont trait aux mitzvot qu'il va accomplir, et à ce que finalement ces mitzvot vont lui donner. Alors comment est-ce qu'un homme peut relier en quelque sorte cette force-là, cette force, de manière intelligente à son intelligence ? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut utiliser cette force-là, mais il peut l'utiliser pour faire des bons choix ? Des choix, c'est-à-dire les choix que la Torah veut qu'on fasse. Des choix qui soient des choix porteurs, des choix structurants, des choix qui permettent de sublimer des forces. La force qui permet d'utiliser cette force-là, qui s'appelle le Koach Medamé, donc cette force de l'imaginaire, dans le bon sens, c'est la Emouna. Parce que la Emouna, finalement, c'est quoi ? La Emouna, c'est finalement cette conscience du fait que Hachem guide nos pas. Il est avec nous, il nous regarde, il est là, il guide nos pas, il guide finalement nos vies, il est l'artisan, on est en quelque sorte, comme dit le Birtav Midiaou, il cite ça, il dit on est finalement... Si on développe un peu cette conscience, un peu comme des stylos entre les mains d'un écrivain, ou comme une matière brute entre les mains d'un sculpteur, entre les mains d'un créateur. C'est ce qu'on est à peu près dans la main d'Hachem. Et cette conscience-là qui s'appelle la Emouna, cette conscience de la Emouna, ben c'est cette conscience qui conduit à écouter. On a dit au départ que le verset qui nous parle du libre-arbitre commence sur « re » et « voix » et se termine sur « écoute ». Comment est-ce qu'on passe de « voir » à « écouter » ? Alors il y a par exemple un exemple. Il y a un exemple qui permet de comprendre, c'est que lorsque les Bnei Israël ont été au Har-Sinaï, au Mont Sinaï, le passouk, le verset nous dit qu'ils ont vu des voix. C'est-à-dire qu'ils étaient à un tel niveau de perception du message divin et de la présence divine qu'ils ont vu quelque chose qui ne se voit pas mais qui s'entend. Et c'est ça qui nous est demandé. Finalement, ce qui nous est demandé, c'est d'être capable de voir ce qui ne pourrait que s'entendre. Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire. On nous dit que y a un monde futur, par exemple. Il y a un monde futur. Que si par exemple on fait des mitzvot, on va sentir des forces en nous, des forces spirituelles qui vont s'élever, etc. Eh bien, on nous demande de voir ce qu'on écoute. On écoute les mitzvot, on écoute ce que la Torah nous dit. On nous demande de développer par le koach hamedamé, par cette force-là qui permet d'imaginer, de créer des tsiyurim, de créer des représentations. On nous demande de voir précisément ce qu'on écoute à partir de la Torah. Et finalement, c'est ça le travail. C'est là que se trouve la Bechira, le libre arbitre de l'individu. Il peut imaginer toutes les folies du monde. Ou alors, au contraire, il peut imaginer ce que la Torah va lui donner sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan humain. Il peut l'imaginer. Dans l'instant de sa projection, quand il décide de faire des mitzvot ou quand il décide de s'améliorer dans une mitzvot, il peut se projeter dans cette dimension. C'est là que se trouve la liberté de l'individu, nous dit le Rambam Maïmonide, et c'est tout à fait fondamental. Il y a aussi un autre point. Pour qu'un individu puisse faire ce travail correctement, il faut qu'il ait des guides. Et une des manières d'avoir des guides, c'est d'être en relation avec les tzadikim, avec les justes de la génération. C'est-à-dire d'aller régulièrement visiter les justes de la génération, les voir, avoir des photos chez soi, et lire des livres sur la vie de ces justes, essayer de comprendre ce qu'ils ont été. Alors, à ce sujet-là, il faut dire une chose qui est quand même importante. Dans les livres qui concernent les grands du peuple juif, souvent, on nous raconte combien ils étaient grands, combien ils étaient extraordinaires, mais on ne nous raconte pas combien ils ont dû se mesurer, eux aussi, à des difficultés et vaincre des difficultés. Parce que finalement, ce que Hachem attend, ce n'est pas qu'on gagne, c'est qu'on se batte. Et finalement, on se bat dans la représentation et dans l'imaginaire. C'est là qu'on se bat pour imaginer des choses qui sont folles ou des choses qui sont sublimes et qui vont nous construire. Donc finalement, voir des tzadikim et lire un petit peu ce qu'a été la vie des tzadikim, il faut toujours le faire avec cette intelligence-là qui consiste à dire que ces gens-là, ils ont dû se battre. Ils ont dû se battre contre eux-mêmes. Et ça n'est pas toujours raconté dans les livres qui sont très hagiographiques, qui ont surtout un style parfois très emphatique comme ça, ou avec plein de superlatifs. Mais il y a quand même beaucoup de livres très intéressants qui sont sortis sur les grands du peuple juif et qui racontent à chaque fois les difficultés qu'ils ont eues dans les relations à l'autre, dans leur étude, etc. et ce qu'ils ont décidé de faire pour grandir. L'histoire la plus connue qu'on raconte souvent, c'est celle du Rambam. Le Rambam lui-même était on appelle le fils du boucher, il était destiné à devenir un ignorant, son père le détestait complètement. Un beau jour, étant dans une synagogue, il a pleuré, et là, les choses se sont ouvertes pour lui. Mais à l'âge où il a fait ça, c'était un adolescent, où aujourd'hui on voit que, si on transporte ça dans notre génération, beaucoup d'adolescents se brisent dans l'étude parce qu'ils ont l'impression de ne pas réussir. Ce qui est une très très grave erreur, parce que ce qui nous est demandé, c'est surtout de nous battre et de produire des combats. Voilà mes chers amis, donc c'est là finalement que se situe la Bechira, le libre arbitre, et au moment où on enregistre, on est l'avant-veille de Rosh Chodesh et Loul. Le Rosh Chodesh, le bois des Loul, finalement c'est le premier mois de l'année, parce que c'est avant Rosh Hashanah que les choses se font, c'est là qu'elle démarre, un mois avant, et c'est le moment finalement de se poser ces questions-là. Est-ce que finalement on est prêt à imaginer finalement qu'on va réussir? Imaginez qu'on peut faire des grandes choses et des belles choses. Je crois que c'est ça finalement le combat. Shabbat shalom à tous.
Shabbat shalom, Rav Mordechai. On est Adam, l'homme capable d'imaginer. Et on sait que Rav Ovadia Yosef était fils d'un épicier lui aussi.
Oui, bien sûr.
Rav Ovadia Yosef, à l'âge de 28 ans, s'est retrouvé grand rabbin du Caire, je crois.
Absolument.
Mais il a failli tout abandonner et. Et je ne me souviens plus quel Rosh Yeshiva que vous allez me rappeler, qui est allé voir son père,
qui est parti voir son père. Il a dit, écoute, ce génie-là, ou tu le laisses aller à Yeshiva, ou alors on arrête tout. Et il est venu lui-même, il dit, moi je vais tenir ta boutique et tu laisses ton fils aller étudier.
Ouais, c'est ça. Et donc le père de Rav Ovadia Yosef dit, mais moi je peux pas, je suis à Bagdad, hein, je suis vraiment la misère. Il dit, mais moi non, il faut qu'il tienne l'épicerie. Et le Talmid Racham lui dit, bon, lui... C'est un génie. Donc, moi, je vais tenir la boutique.
C'était à Jérusalem.
Ah, c'était à Jérusalem déjà.
Oui, c'est dans la vieille ville à Jérusalem. Ça fait partie des histoires magnifiques, mais ça nous montre à quel point, finalement. Il raconte lui-même, d'ailleurs, Ovadia Yosef, qu'il était complètement dans la misère. Mais il n'a jamais eu l'idée d'abandonner. C'est quelqu'un qui, précisément, s'est complètement projeté dans la Torah. Ça a été sa grande force et son grand génie. Et il disait souvent, quand il a été au sommet de sa gloire, il encourageait tous les jeunes avrichim à sortir des livres. Il a dit, sortez des livres, ne vous laissez pas avoir, ne pensez pas que vous êtes inutile et qu'il y a déjà plein de livres sur ce que vous avez écrit. Écrivez et sortez des livres. Ce qui était une manière d'encourager les gens, précisément, à se projeter dans une dimension positive. Il était très très positif, il a beaucoup de Ein Tova, il avait un œil très très bon et très généreux sur les gens qui étudiaient la Torah.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Bonsoir, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shalom le'oy na'boy, Hashem lo yishmarich, Shav shokat shoymer, Hashem lo yine ba'yis. Shalom le'oy na'boy, Hashem lo yishmarich, Shav shokat shoymer.